One, two, three, ho!
Il va donc peaufiner sa vie de cyclonomade en visitant tous les pays d'Europe. Un choix de vie presque monacal, où il va savourer chaque instant pour le meilleur et pour le pire. Son objectif ultime, c'est de visiter tous les pays du monde.
Alors pour la Corée du Nord, accroche-toi,
voilà.
Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo et aujourd'hui on a une émission où on sera que deux. On a un nouveau chroniqueur, Jean-Jean, ça roule ?
Ouais, ça roule pas mal et toi ?
Eh ben ça roule aussi pas mal avec le beau temps qui revient, ça fait vachement plaisir de pédaler dans ces conditions-là. Moi j'ai l'impression quand il y a le printemps et le beau temps qui revient, c'est la récompense, tu vois, on en a bavé pendant l'hiver, mais on est resté intact, frais et tout. Et puis l'été, ben, on est récompensé par le petit Jésus pour avoir du beau temps comme ça.
Ouais, et alors on se réjouit effectivement d'être plus dehors, parce que là, c'est vrai que les derniers mois, c'était relativement pénible quand même.
Alors, de quoi tu vas nous parler, Jean-Jean ?
Écoute, aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'une entreprise éco-responsable à Lille.
On va parler tout à l'heure de la propriété émergente. Tu sais ce que c'est, une propriété émergente ?
C'est une propriété qui émerge, j'imagine.
Voilà, bon, on va en parler tout à l'heure, on va dire un peu plus. Et j'aimerais qu'on parle de ce qui se passe à Singapour. Est-ce que tu sais comment ça se passe à Singapour au niveau de la voiture ? Est-ce que tu en as entendu parler ?
Alors, pas du tout. Je suis même jamais allé à Singapour. Est-ce qu'on roule à gauche déjà à Singapour ?
Eh ben, j'y suis pourtant allé. Eh ben, je me rappelle plus. Mais il me semble que oui, qu'on roule à gauche à Singapour.
C'est bien possible.
Il y a des bus impériaux et tout ça. Ça reste une ancienne colonie britannique quand même. On a beau être en Asie, ils sont quand même très influencés par la culture britannique. Eh ben, à Singapour, alors, on est tout au sud de la Malaisie. Singapour, c'est une ville-État. Donc c'est une ville qui a ses propres règles, qui est un pays en fait, et qui fait à peu près 25 km sur 50, donc c'est assez petit, donc on maîtrise bien les frontières, et puis c'est une ville, et je crois que les deux tiers de l'île sont une ville, et puis il y a un tiers qui est encore naturel. Et ben à Singapour, ils ont décidé qu'en 2018, il y aurait 600 000 voitures, et il n'y en aurait pas une de plus.
D'accord.
Comment ils s'y sont pris ? Et ben ils ont des plaques d'immatriculation. Et ils ont un nombre de plaques d'immatriculation limité. Donc, si on veut une nouvelle voiture, il faut attendre qu'il y ait une voiture qui parte à la casse ou qui soit revendue à l'extérieur des frontières de Singapour. Donc, on limite les voitures à 600 000. Alors, ça a un impact formidable. Ça veut dire que pour les automobilistes, déjà, ah ben, il n'y a pas d'embouteillage parce qu'il n'y a pas trop de voitures. Donc, quand on achète une voiture, ce n'est pas pour rester stocké dans les embouteillages. Mais je ne suis pas en train de dire seulement du bien de cette mesure-là par rapport aux voitures. C'est aussi que ben, les voitures, elles coûtent plus cher. Parce que les plaques, elles sont mises aux enchères.
Ah oui.
Et, alors, je ne sais pas si c'est tous les mois ou tous les ans, mais elles sont mises aux enchères. Du coup, les gens, ils lèvent la main. Et puis, ben, il se trouve que si tu veux acheter l'équivalent d'une Twingo, eh ben, faut que tu sois quand même assez bien rémunéré. Parce que les voitures à Singapour, elles coûtent simplement 3 fois plus cher qu'en Europe. Du coup, ben, ça limite la circulation motorisée, ça limite le bruit. Et la vie est plus facile pour les autres modes de déplacement.
Voilà, moi, ben, c'est une initiative qui est quand même assez intéressante. Si l'effet escompté, bon, c'est vrai que c'est peut-être pas très égalitaire. Je me demandais s'il y avait une approche premier servie, par exemple, pour ça. Mais bon, c'est vrai que le système des enchères, ben, c'est pas forcément
c'est très, le plus riche,
très égalitaire.
Mais du coup, ça fait aussi. On peut dire oui, alors il y a que les riches qui ont le droit de prendre la voiture. Oui, mais les riches, ils le payent vachement cher le droit à prendre leur voiture.
C'est ça.
Du coup, ces sous-là qui sont en excès, il retourne dans les caisses de l'État singapourien et il sert à la collectivité. Donc là, c'est un moyen de dire aux riches, ben, ok, vous voulez prendre la voiture, mais vous allez payer pour les embouteillages et pour tous les inconvénients que ça a, et toute la collectivité va en profiter. Alors, le pendant de ce truc-là, c'est qu'il faut absolument que les transports en commun soient performants. Alors, il y a énormément de taxis. Beaucoup de gens, finalement, se rendent compte que c'est pas forcément nécessaire d'avoir une voiture personnelle, même s'ils ont les moyens de s'en payer une, parce que les transports en commun sont très performants. Il y a beaucoup de bus impériaux, donc comme ils sont en hauteur, ça prend moins de surface. Il y a beaucoup de taxis. On est quand même dans un pays tropical, donc le vélo, c'est un peu plus difficile, mais il y en a quand même, et on est en toute sécurité. Alors moi, Jean-Jean, je rêve d'un truc. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'au niveau d'un département, d'un canton, d'une région, on limite aussi le nombre de plaques d'immatriculation, qu'on dise, bah voilà, il y a tant d'habitants dans ce coin-là de Suisse, de France, de Belgique, dans ce coin-là du monde, du coup, il n'y aura que tant de plaques d'immatriculation.
Mmh.
Et du coup, bah, il n'y a que les super riches qui pourront s'en payer, et les super riches, eh ben, ils devront payer vachement cher, et ça reviendra quelque part à ceux qui n'ont pas les moyens de s'en payer. Qu'est-ce que t'en penses ?
Mais écoute, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Si t'arrives à faire passer la voiture comme un luxe dont on peut se passer, effectivement, parce que tu as une compensation, ou tu as des transports publics ou des moyens de se déplacer qui fait que le problème du déplacement est réglé, ça donne du sens.
Jean-Jean, tu es déjà parti en vacances avec tes enfants à vélo?
Non, mais parce que j'ai pas d'enfants. Par contre, je suis déjà passé en vélo. Je suis déjà parti en vélo, par contre.
Ah, c'est pour ça.
Oui, ça.
Je pensais que tu allais avoir une excuse à deux balles, mais non, le fait de pas avoir d'enfants, c'est normal que tu fasses pas ça. Alors, si vous, vous êtes parti déjà en vacances avec vos enfants, vous pouvez vous apercevoir que parfois, c'est difficile de les motiver à pédaler. Eh bien, Papa Cyclette a la solution.
Dis, Papa Cyclette, tu me racontes une histoire?
Une histoire de quoi?
Bah, une histoire de vélo.
Épisode 5, comment choisir son itinéraire pour partir avec ses enfants. Dis Papa Cyclette, comment choisir un itinéraire à vélo quand on part avec ses enfants?
Hyper facile. Tu cherches sur la carte un itinéraire pour voir des musées, des églises.
Hop, je te coupe tout de suite. Là, tu me donnes pas du tout envie de pédaler.
Bon, effectivement, il y a d'autres manières de s'y prendre. Un truc qui marche bien, c'est l'objectif. Rouler avec un but en tête, ça aide notamment pour les enfants. On roule jusqu'à la mer, on roule jusqu'à arriver chez mamie par exemple. Cela peut être un objectif de voyage. On roule, et à la fin, on se baignera dans la mer. Des objectifs intermédiaires sont aussi motivants. Ce soir au camping, il y aura une aire de jeu, une piscine, on mangera une pizza, etc. Alterner les moments où on roule et les moments de détente sont importants. De notre côté, on fait souvent des pauses près des aires de jeu. Pendant que les parents préparent le repas, les enfants peuvent jouer avec les ressources locales, toboggans, cabanes, etc. D'autant qu'il est difficile d'emmener beaucoup de jouets en voyage.
Pizza, piscine, c'est plus motivant que musée et église.
Ça dépend des goûts, des âges de chacun.
Quelle route on prend avec ses enfants?
La sécurité reste primordiale avec des enfants, surtout des petits. Rouler sur des routes à fort trafic, on peut tout de suite oublier.
On peut s'appuyer sur quoi alors?
Depuis quelques années, certains sites recensent des voies spécifiques, idéales pour rouler à vélo. Le site AF3V, par exemple, répertorie l'ensemble des voies vertes de France.
AF3V!
L'AF3V est une association qui promeut les déplacements sécurisés, sur voies vertes ou sur des véloroutes. Elles sont idéales à pied, à vélo, certaines en roller même quand elles sont goudronnées.
Véloroute, voie verte, qu'est-ce que c'est?
Une voie verte est une voie en site propre, c'est-à-dire qu'elle est interdite aux véhicules motorisés. Voitures, motos, camions, évidemment. En France, ce sont souvent des anciens chemins de halage, ou des anciennes voies ferrées qui ont été aménagées. Elles sont idéales avec les enfants car elles restent sécurisées et avec un très faible dénivelé. Une véloroute, quant à elle, est également aménagée pour la pratique cycliste. Elle est balisée et emprunte des routes à faible fréquentation. Elles peuvent donc être utilisées avec vos enfants si vous avez la possibilité d'accrocher leur vélo au vôtre, ou s'ils sont suffisamment autonomes pour rouler sur une route avec des voitures. Dans le cahier des charges, ces routes sont aussi à faible déclivité.
Des itinéraires conseillés avec les enfants?
Le site AF3V ressemble l'ensemble de ces pistes sur le territoire français. Une ressource intéressante est également celle relative aux Eurovéloroutes. Ces programmes européens visent à promouvoir la pratique du vélo en créant des itinéraires balisés. Le plus connu est l'Eurovélo 6, qui relie Saint-Brévin jusqu'à la mer Noire.
Jusqu'à la mer Noire?
Oui, plus de 4000 km déjà tracés, qui relient l'Atlantique à la mer Noire en Roumanie. On suit la Loire, le Danube, en passant par Budapest.
Rien que ça.
Oui, rien que ça. Certains de ces itinéraires sont encore en construction et sont aménagés portion par portion. Le site AF3V, et oui, encore lui, permet de voir l'avancée des aménagements.
Des itinéraires coup de cœur?
La Loire à vélo, peut-être, pour ces aménagements au top. Le canal du Midi également. Mais attention, certaines parties sont un peu plus délicates car elles sont non goudronnées, avec des terrains pas forcément faciles avec un vélo chargé. Cailloux, souches, etc. La Vélodyssée qui longe l'océan Atlantique est aussi très intéressante. Les pistes sont variées. Dans les pins dans le sud-ouest, on passe plus ou moins loin de la côte, mais les paysages sont beaux et variés. Il existe également de nouveaux itinéraires, comme la Seine à vélo, qui suit les méandres du fleuve, ou la Vélomaritime, qui longe les côtes de la Manche. Je n'ai pas testé ces deux dernières routes, donc je ne sais pas si je peux vous les conseiller. Il y a également d'autres itinéraires très connus, comme la Via Rhôna, qui relie le lac Léman à la Méditerranée en suivant le Rhône. Il y a également une voie qui relie Paris à Londres. Il existe donc plein de très beaux itinéraires à faire en France. Ils sont variés et très faciles d'accès pour la plupart.
Une petite vigilance?
La météo peut-être. Partir avec des enfants sur le canal de Nantes à Brest à l'automne est peut-être un peu risqué.
Toi, tu vas avoir des problèmes avec les Bretons.
Oui, mais traverser le Luberon en juillet-août est aussi risqué, car on peut rencontrer de fortes chaleurs.
Les sudistes ne vont pas t'aimer non plus.
Alors, on sait tout ?
Oui, ça y est, tu sais tout.
Bon voyage, papa Cyclette !
Eh ben, je suis paré maintenant. Si je veux partir en vacances, je sais quoi dire à ma petite. Et je sais qu'elle aura envie de pédaler. Alors, Jean-Jean, tu as décidé de parler de ce qui se passe à Lille. Lille, y a une entreprise qui donne des vélos, enfin qui propose des vélos de fonction.
Voilà, c'est ça. Alors, je vais un peu vous expliquer cette belle démarche éco-responsable qui a été mise en place par une entreprise à Lille. Alors, Lille, c'est dans le nord, et j'imagine que c'est tout plat, et que du coup, ça se prête bien au trajet en vélo. Tu peux confirmer, Eric ?
Je confirme.
Parce que tu viens de là-bas, toi, on est d'accord.
Ouais. Je viens de la Normandie, mais c'est pas loin.
Voilà, donc c'est pas comme Montreux, par exemple.
Ouais, c'est, voilà. Disons que c'est plus plat.
Donc, dans cette société, c'est la société SIM du groupe DL Software, qui est basée à Villeneuve-d'Ascq. Elle a décidé de mettre à disposition de ses employés des vélos de fonction, dans la même logique que les voitures de fonction habituellement réservées aux cadres. L'idée est que chaque employé puisse acquérir un vélo aux frais de l'entreprise et ainsi favoriser la mobilité douce et pour ses trajets quotidiens. Tu as déjà vu ça quelque part, toi ?
Non, alors j'ai jamais entendu parler de ça. Je me demande, c'est des vélos électriques ou des vélos musculaires ?
Alors, il y a plusieurs possibilités. Bon, des voitures de fonction, ça se voit relativement régulièrement. Et si on y réfléchit, c'est même probablement encourageant pour un employé qui n'aurait pas de voiture de l'utiliser. À plus forte raison, si on lui propose sans frais. Donc les entreprises ont souvent des avantages fiscaux ou comptables à acquérir un parc de véhicules et au jour d'aujourd'hui, c'est assez questionnable comme démarche de donner des véhicules à tout le monde alors que politiquement, on s'efforce de faire basculer les gens vers la mobilité douce afin de limiter le trafic ou encore de réduire l'impact des infrastructures routières sur le paysage. Bref, bon, je me laisserai aller jusqu'à dire que c'est pas bien. Bon, reprenons. Comment ça fonctionne pour les 110 employés de la société SIM, parce qu'ils sont 110 ? Alors voilà, s'ils désirent, ils peuvent s'inscrire au programme et moyennant une participation de 30% aux frais, la compagnie leur achète un vélo de leur choix. Donc effectivement, ça peut être un vélo classique, un mountain bike, un vélo électrique ou encore un vélo cargo, en fait, selon les désirs de l'employé.
Même un vélo cargo ?
Mais oui. Bon, alors après, le crédit d'achat, il est quand même limité à 2 100 €. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais bon, il me semble qu'avec 2 100 €, on peut déjà s'acheter une belle monture. Ou bien...
Surtout que si ça paye les deux... Non, 30%, tu as dit ?
Voilà, exactement. Ouais. L'entreprise paye 70% et l'employé 30%.
Ouais, ça veut dire que tu peux t'offrir un vélo à jusqu'à 3 000 €, quoi, 3 500 €.
Alors, je ne sais pas si 2 100, c'est le total. Bon, bref, mais en tout cas, je trouve que déjà, tu as déjà un chouette budget.
T'as une belle monture.
Là, toi, tu prendrais quoi, toi ?
Ah, si on... je crois que je prendrais un vélo électrique parce que j'ai un vélo traditionnel, là, musculaire, je ne sais pas comment appeler ça. Je pense que je prendre un vélo électrique, ouais.
Pour les trajets quotidiens, arriver moins en sueur, c'est effectivement pas mal. Bon, comme je disais, la participation de l'employé, elle n'est pas nulle. Hein. Donc, afin de couvrir les frais fixes, typiquement les assurances, j'imagine que ton vélo est assuré contre le vol après, etc. Donc, il participe à une hauteur de 30% et ça va représenter une retenue d'une dizaine d'euros par mois, en fait, sur salaire.
Ouais.
Donc, ça va. Personnellement, je trouve que c'est une belle démarche. Alors, je ne sais pas combien d'employés ont déjà opté pour leur vélo de fonction, mais je ne doute pas du succès de cette démarche. D'ailleurs, la société SIM n'en est pas à sa première action, qui vise à encourager le vélo, mais aussi d'autres activités physiques. Donc, hein, être dans un bureau toute la journée, ça peut ramollir un peu les employés. Eh bien, du coup, ça fait du bien d'aller courir un peu à la pause. Et s'ils ont installé des douches, afin de permettre après aux employés qui rentrent de se rafraîchir un peu avant de retourner bosser. Bon, ça, c'est relativement classique, tu me diras. Moi, je trouve que c'est même plus ou moins la moindre des choses. Enfin, voilà. Mais qu'est-ce qu'on dit à la société SIM ?
Eh ben, merci, les gars.
C'est ça, on leur dit bravo.
Et puis surtout, essayer d'essaimer que d'autres fassent la même chose. Mais alors, c'est génial. J'avais entendu parler d'une entreprise je crois que ça devait être à Strasbourg. Enfin, en tout cas, c'était en Alsace, qui avait tout fait aussi pour que ses salariés viennent à vélo ou en bus, mais en tout cas qu'ils viennent plus en voiture, tout simplement parce que économiquement c'était rentable pour eux. Ils voulaient piquer une partie du parking pour construire un nouveau bâtiment plutôt que d'acheter du terrain. Donc ils ont tout fait pour que les salariés lâchent leur voiture.
Les places, ouais.
Ça a marché. Donc là c'est ok, c'était pas philosophique, c'était pas pour aider le vélo ou quoi que ce soit. Mais le résultat est là, c'est qu'il y a eu moins de voitures et puis eux ils ont économisé des sous. Donc peu importe la raison. Moi, je pense que tant qu'on élimine de la voiture, c'est une bonne chose.
Effectivement.
Et puis, à travers cette initiative, je trouve qu'on revient un peu plus d'égalité, parce que t'avais des primes à la casse, par exemple. Alors, le gars, il envoie sa voiture à la casse, il rachète une voiture, il a sa prime. Mais si le gars, il a envie d'acheter un vélo derrière, eh ben, il n'avait pas de prime. Eh bien, aujourd'hui, en France, ça y est, il y a une prime. Tu mets ta voiture à la casse et tu peux avoir des sous pour acheter un vélo.
C'est ça, 50 euros, c'est ça ?
Ça, c'était la prime pour les réparations. Je t'avoue que je ne sais pas combien c'est la prime maintenant quand tu mets ta voiture à la casse et que tu rachètes un vélo.
Ouais. Bon, mais que ce soit un peu plus élevé que 50 euros, j'espère.
Parce
qu'une prime à l'achat de voiture, c'est...
Oh, ça pouvait monter à 1000, 2000 balles.
Ouais, tu vois. Ouais.
Donc là, tu achètes un beau vélo électrique avec ça.
Ouais, c'est sûr.
Puis du coup, avec ce que fait CIM, c'est ça le nom de la société ? Ouais. Eh ben, je trouve que c'est génial aussi. Plutôt que d'avoir juste des voitures de fonction, t'as des vélos de fonction. Un peu de justice pour les cyclistes. On va parler d'un livre, qui s'appelle Fuite. Et ce livre, Camille l'a lu et ça l'a transporté, si bien qu'elle a décidé d'en faire une chronique.
Je voudrais vous parler d'un extraterrestre, un trentenaire originaire du Pas-de-Calais. Bon, c'est pas pour ça qu'il est extraterrestre. Qui s'appelle Bastien Delessalle, alias Nomadsland. Il revient de 8 ans de voyage à vélo. Il a parcouru 60 000 km à travers 50 pays d'Europe. Il les a tous faits.
Donc, juste à 60 000 km, juste en Europe.
Voilà, sur 8 ans.
Parce que le tour du monde complet, si on se fait sur l'équateur, en allant tout droit sur l'équateur, c'est 40 000. Donc, lui, il a fait 60 000 juste en Europe.
Mais il a vraiment visité. Il n'a pas fait que traverser.
À toute vitesse.
Voilà, juste pour dire j'ai traversé ce pays. Donc, rien à voir avec les stars du voyage à vélo, sponsorisés, médiatisés, suréquipés. High-tech avec leur GoPro et leur drone.
Ah, le drone.
Voilà. Lui, c'est plus que du cyclo-voyage. C'est du véritable... En fait, Bastien chemine en véritable nomade. Il fait preuve d'humilité. Il vit au jour le jour et voyage sans carte, sans téléphone.
Ah, il est obligé de demander son chemin à mince. Il est obligé de parler à des êtres humains.
Il note, avant son voyage, les villes par lesquelles il veut passer, où il questionne en chemin les personnes qu'il rencontre. Il est sur un bon vieux vélo, plus lourd que lui, un petit gars d'1m70 qui ne paie pas de mine, mais qui sait se surpasser à la force du mental pour traverser les pires galères. Il chemine tranquillement, à son rythme, pour aller à la rencontre des gens, des cultures, des paysages. Voilà pourquoi il n'est pas tracé tout droit dans un pays, mais il a pris le temps de découvrir le pays.
Prendre des petites routes et rencontrer des gens.
Voilà. Contraint par le confinement, hein, comme nous tous, il a mis à profit ce temps pour écrire son premier livre, intitulé « Fuite », qui veut tout dire, qui évoque un extrait de son voyage à travers l'Angleterre. J'ai lu son bouquin il y a un mois, je l'ai commencé un soir, je l'ai terminé dans la nuit.
À ce point-là ? Je l'ai dans les mains, il fait 150 pages, t'as pas dû beaucoup dormir.
C'est écrit gros, Camille.
Ah, c'est écrit gros. Mais il se lit tout seul. Il est vraiment accessible. Donc, j'y ai trouvé à la fois de la poésie, de la philosophie, un humour fin. Et à la fois, je me suis prise en pleine figure la réalité brute des difficultés du voyage à vélo. On souffre avec lui, franchement, tout au long du livre. On en bave pour lui. On est fasciné par sa résilience à la douleur et son moral d'acier. On termine le livre avec l'impression d'être trempé. Ben oui, il voyage en Angleterre et la pluie, c'est pas qu'une légende. Pour en savoir plus sur cet extraterrestre du cyclo-nomadisme, je l'ai contacté. Et nous avons échangé plusieurs heures par téléphone et à travers des messages aussi. J'en suis encore toute chamboulée. Hein. Son témoignage m'a fait méditer. J'ai remis en question mes bases du cyclo-voyage et j'ai presque eu envie de tout plaquer pour partir à l'aventure le lendemain.
Deux fois.
Voilà.
Oh, attention, c'est un livre dangereux, ça.
Ouais, attention. Bastien, c'est un sacré personnage. Hein. Hors de notre temps, de notre société, qui s'est affranchi, dépossédé du confort quotidien, qui a épousé la solitude et la liberté ultime au prix de ses convictions. Paradoxalement, il s'enrichit des rencontres humaines, d'un jour, d'un soir, qui ont accueilli cet inconnu, ce petit Français, par hasard et confiance, en lui sauvant la mise les nuits de pluie torrentielle ou de froid glacial. Pour la petite anecdote, quand je lui ai expliqué que nous enregistrons Pause Vélo à Alençon en Basse-Normandie, il a su le situer.
C'est pas vrai.
Car il s'y est souvent rendu et il y a même démarré avec un ami un voyage en monoroue vers le Maroc.
En monoroue,
ouais.
Oh les fous.
Comme quoi.
Ils y sont allés ou ils ont réussi à aller jusqu'au
Maroc?
Oui,
oui, oh là là, les cinglés. Ils en sont revenus. Comme quoi, tous les chemins mènent à Alençon.
À Los Angeles, the place to be.
Voilà. Donc l'idée de voyager lui vient de deux déclics dans sa vie. Même s'il l'expérimentait déjà depuis en monoroute depuis ses 20 ans pendant les vacances. Après avoir travaillé 10 ans dans un bureau comme dessinateur industriel, hein, donc rien à voir. Et suite à la crise de 2008 qui touche aussi le milieu de la construction, Bastien sent que sa vocation ne colle plus à ses convictions écologiques naissantes. Et là, je le cite parce que sa phrase m'a beaucoup plu. Il veut arrêter de rêver de la vie.
Il veut la vivre pour de vrai.
Voilà.
Ah, magnifique.
Ouais. Il rencontre alors une femme et ils décident ensemble de tout plaquer pour partir vivre en Australie. Finalement, il y part seul. Mais quelques temps après son arrivée, il est victime d'un grave accident de voiture et il se retrouve plongé dans le coma. C'est ensuite un an de souffrance pour se remettre sur pied, mais c'est aussi là son deuxième déclencheur. Et il se refuse ensuite à une vie standard.
Il veut vivre dans les marges.
Voilà. Il prend conscience que la vie est courte, qu'on n'en a qu'une. Et il compte bien profiter de chaque jour qui passe malgré le manque de confort, d'argent, de vie familiale, etc. Par hasard, il atterrit alors sur un vélo. Et c'est un véritable coup de foudre. Il va donc peaufiner sa vie de cyclonomade en visitant tous les pays d'Europe, ce qui lui prendra, sans s'en rendre vraiment compte, hein, quasi 8 ans. Mais il m'a dit que même Monaco, l'Andorre comptaient pour lui. Voilà, il a plus le temps aussi de... Voilà.
C'est des pays.
Un choix de vie presque monacal, où il va savourer chaque instant pour le meilleur et pour le pire. Son objectif ultime, c'est de visiter tous les pays du monde.
Alors pour la Corée du Nord, accroche-toi.
Voilà. Donc à cause de la Covid et des confinements, Bastien est pour le moment coincé chez ses parents dans le nord de la France, où il rentabilise ce temps de latence pour transformer ses 32 carnets de voyage en futures œuvres littéraires. Bastien n'a donc pas fini d'écrire et pas fini de voyager à vélo non plus, lorsque la situation s'améliorera. En attendant, il nous permet à nous de voyager par procuration. Donc je vous invite à aller commander son livre auto-édité sur son site internet et de liker sa page Facebook qui s'appelle tous deux Nomadsland.
Alors on rappelle le titre de l'ouvrage, c'est Fuite et c'est rédigé par Bastien Delessalle. Eh bien Jean-Jean, on va parler maintenant propriété émergente. Moi je t'avoue que ce mot-là, cette expression-là, je l'ai entendu, je l'ai lu pour la première fois en lisant un bouquin de Hubert Reeves qui parlait des étoiles et puis ça m'a fait rêver. Une propriété émergente, c'est quand 1 plus 1 font autre chose que 2. Ah là, tu me regardes, tu fais ouais. « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?»
Qu'est-ce qu'il raconte ?«
Il est encore bourré. » »«
Il est encore bourré. »
N'importe quoi.
N'importe quoi.
Eh bien, en fait, la propriété émergente, c'est par exemple un gâteau. Je sais pas si tu as déjà mangé de la farine, mais juste de la farine.
Non.
C'est pas bon. Tu as déjà mangé un œuf cru, comme ça.
Peut-être par erreur, oui.
Voilà. Bon, du sucre, ça passe encore. Mais alors, quand tu mélanges les trois, tu peux manger ça. C'est la propriété émergente. C'est quand 1 plus 1 plus 1... Ça fait autre chose que 3.
Voilà.
Une portion de farine, une portion de sucre, une portion de lait, d'œuf, etc. Ça fait un gâteau et là, c'est bon. C'est ça la propriété émergente.
Ah ben
c'est
là, j'ai compris.
C'est clair. Je redonne un autre exemple. Par exemple, un orchestre. Eh ben, un orchestre, c'est plusieurs instruments. Mis un par un, tu vas entendre des petits bouts. Mais quand tu mets tout ensemble, tu vas entendre une symphonie. Propriété émergente. Quand l'ensemble des instruments fabrique autre chose que les instruments pris un par un. Prenons maintenant l'exemple de la voiture. Propriété émergente. Tout le monde fait quelque chose, donc ça va rapporter quelque chose à tout le monde. La voiture, faut être honnête, ça nous aide quand même individuellement. On se déplace plus vite, on peut prendre plus de choses. C'est quand même pour l'individu quelque chose de plutôt positif. Faut le reconnaître. Moi, j'ai une voiture aussi, et je la prends rarement, mais quand je la prends, je suis content de l'avoir. Cependant, une voiture plus une voiture plus une voiture, c'est pas tout plein de bonnes choses pour les individus qui font tout plein de bonnes choses pour la collectivité. Là, la propriété émergente du nombre croissant de voitures, eh ben, elle est néfaste. C'est-à-dire que plus on a de voitures, plus on va avoir d'embouteillages. Donc pour les automobilistes, c'est pas terrible. Et puis je parle même pas des villes qui sont bruyantes, qui sont dangereuses. Donc la propriété émergente de l'accumulation d'automobilistes, elle est néfaste. Pareil pour le climat, c'est de pire en pire. Est-ce que la propriété émergente de un vélo plus un vélo plus un vélo plus un vélo, est-ce que c'est négatif selon toi ?
Je réfléchis, mais je vois pas trop pourquoi. Enfin, t'as pas un impact sur les infrastructures aussi grand que la voiture.
Non, j'ai cherché. Hein. En fait, allez, on peut avoir un impact. Ça arrive à Amsterdam, dans quelques coins du monde. Il y a des embouteillages à vélo. Il peut y avoir ça. On peut mettre quelques piétons en danger en plus, mais on est quand même beaucoup moins en danger que des voitures. La propriété émergente de l'augmentation du nombre de vélos, c'est juste extraordinaire. On a déjà pour nous les cyclistes l'effet peloton. Plusieurs vélos ensemble, eh ben, ils font moins d'efforts pour se déplacer. Et si tu as fait des fois des courses en vélo, et ça on peut le comprendre que si on a fait des courses, eh ben, c'est énorme l'effet peloton. Les villes sont apaisées. C'est beaucoup moins dangereux de se promener dans une ville où il y a beaucoup de vélos. Elles sont beaucoup moins bruyantes. C'est moins dangereux pour les cyclistes eux-mêmes aussi, parce que plus il y a de voitures dans une ville, plus il y a de vélos, je veux dire, dans une ville, plus les automobilistes sont habitués aux vélos, et donc plus ils font gaffe. Ils vont regarder dans leur rétro. Et c'est statistique, hein, le nombre d'accidents baisse. Et bien voilà, on peut opposer les propriétés émergentes vélo, propriétés émergentes voiture, et on voit que pour les vélos, c'est du bonheur en barre, et que pour les voitures, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué. Vous avez des questions, Jean-Jean ?
Non, écoute...
c'est que j'ai été clair.
Mais t'as été très clair, et puis je vois effectivement où tu veux en venir. On a complètement une inversion d'effet par rapport aux voitures. Quand tu multiplies ton nombre de vélos, tu as des effets positifs et pas des effets néfastes.
Eh bien, instinctivement, je pense que tous les chroniqueurs de Pause Vélo l'avaient compris, cette propriété émergente. Et c'est pour ça qu'on a créé l'émission. On va écouter la chronique du YAC. C'est parti.
En juin 2010, je rencontre Stéphane Rousson dans une immense hall du musée de l'aéronautique du Bourget pour raconter son histoire, une histoire un peu folle, la tentative de traverser la Manche à vélo avec des ailes. Sa passion remonte à des souvenirs de jeunesse, au vol de l'Albatros Gossamer sur la Manche, à celui de Picard et Jones autour du monde et aussi au film E.T. dans lequel un enfant pédale sur un vélo et s'envole. Mais Rousson, dont le parcours est chaotique, comme il le dit lui-même, tient avant tout à vivre ses propres aventures. Toujours l'envie de faire mille choses. Curieux et bricoleur, je passais tout mon temps libre dans le garage à fabriquer des avions modèle réduit, des bateaux et divers objets qui ne ressemblent à rien. Toutes sortes d'essais, de la fusée à l'explosif, en passant par les bicycles. Adolescent dyslexique, Stéphane Rousson rêve d'une carrière de skieur professionnel, de pilote d'essai et de pilote de ligne, voire d'astronaute. Ainsi, il se distingue d'abord dans des compétitions de ski, puis commence à sillonner le monde à vélo. Après un BTS en commerce international, il entame une formation de pilote de ligne qui s'achève brutalement lorsque les compagnies aériennes qu'il emploie ferment ses portes le 11 septembre 2001. Lorsque la même année, il a vendu du Zeppi, un zeppelin à pédale qui croupit dans un hangar, ni une ni deux, il rencontre l'un de ses créateurs, Jean-Marc Geyser, trouve des financements, lui achète l'engin, le répare, le perfectionne et l'oiseau déchu reprend son envol en 2006. C'est alors la chance de sa vie, il se lance corps et âme dans son rêve d'enfance, traverser la Manche, 55 km avec une machine volante. Entre-temps, aussi brouillon que passionné, il se démène pour construire son propre ballon à pédales gonflé à l'hélium et dont l'enveloppe serait confectionnée par des couturières de capitons de cercueil. En voyant son rêve devenir réalité, Stéphane Rousson est au 7e ciel. L'engin est à peine plus lourd que l'air, le pédalier est relié à deux hélices de 3 mètres d'envergure chacune. Pour décoller, il les place à l'horizontale comme celle d'un hélicoptère, puis les bascule en arrière pour se propulser. L'inclinaison des hélices lui permet de diriger le ballon, mais gare au vent, qui au-delà de 10 km/h risque d'emporter ballon et pilote, funeste destin, qui rappelle celui d'Icare brûlé par le soleil. Pour corser le tout, l'hélium, qui est un gaz très sensible, se dilate à la chaleur et se contracte au froid. Ainsi, dans l'idéal, il faut partir à marée haute, au lever du soleil, quand la température s'élève peu à peu. Le ballon est alors propulsé vers le large par une brise de terre. Au terme de 5 ans de préparation, Stéphane s'impose un régime et perd 12 kilos. Le 10 juin 2008, il se lance de la côte anglaise, mais le vent lui vole presque aussitôt tout espoir. La mort dans l'âme, il abandonne. Mais remet ça le 28 septembre de la même année, deux jours après qu'une autre drôle d'oiseau, Yves Rossi, dit le Fusion Man, ait traversé la Manche sur son aile en carbone à 299 km à l'heure en 9 minutes et 7 secondes. Stéphane roule durant 4 heures et sur quelques 35 km de piste céleste, mais le vent l'empêche à nouveau de poursuivre. Obstiné, il pédala encore 3h30 avant de remballer son matériel sur le bateau qui l'accompagnait.
Eh ben Jean-Jean, on va se quitter, mais c'était super de t'avoir. Tu reviens, tu déconnes pas.
Ah ben clairement, oui, oui.
Et je voulais juste vous dire un petit truc. Je sais pas si vous avez remarqué depuis le début de cette saison, en fait, sur YouTube, on ne diffuse pas en full HD, mais en HD, c'est-à-dire qu'on prend moins de pixels, on prend moins de flux. On a fait ça volontairement pour réduire notre impact carbone, pour réduire notre empreinte numérique. Et je vous invite, si vous êtes YouTubeur, vous aussi, à réduire la taille de vos vidéos. La qualité n'est pas moindre. Mais voilà, je voulais depuis un petit moment vous le dire. C'est pour ça qu'on a réduit la taille des vidéos. Et n'oubliez pas, les copains, pour sauver l'humanité, faites du vélo!